Commence par une histoire, pour que ce soit léger. Je me suis dit aujourd'hui que j'avais l'impression que ça devait être un culte un peu plus léger. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis dit une histoire passe toujours bien, du moins, je pense. J'espère que c'est aussi votre cas. Voilà l'histoire d'un jeune couple qui habite dans le Petit Val, dans le tout petit village de Sornetan. C'est un cadre idyllique, comme vous voyez, des paysages à couper le souffle, des forêts, des sapins. C'est juste un endroit, une arve de paix magnifique. Donc ce couple, ils entendent les oiseaux, les chants des oiseaux le matin dans le beau soleil. Et ils viennent de déménager, ils emménagent dans une belle maison. Et de leur fenêtre, le lendemain matin au petit déjeuner, la dame regarde dehors. Et elle apprécie ce qu'elle voit. Et tout d'un coup, elle voit une des voisines qui vient puis qui est en train de pendre son linge sur l'épandoir. Elle regarde ça puis elle se dit mais c'est bizarre. Elle dit à son mari, mais t'as vu, le linge il est sale. Mais t'as vu, je crois qu'elle ne sait pas comment on lave le linge, franchement. Ou bien, oui, oui. Non, c'est bon. C'est tout bon. Et puis, tout d'un coup, elle est plus focalisée par mes lunettes, je vais les enlever, que par l'histoire. J'ai un peu loupé mon introduction, là. Enfin, bref. Donc, elle regarde par la fenêtre et puis elle commence à se dire, mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle a une mauvaise lessive? Comment ça se fait que, franchement, ce linge, il est autant sale que ça? Elle regarde son mari en pensant qu'il va dire la même chose. Et lui, il ne dit rien du tout. Il écoute simplement et il dit rien. Et après, le temps passe, les semaines passent. Et chaque fois que cette dame, sa voisine, va dehors avec le linge, elle regarde de nouveau, elle refait un commentaire et chaque fois c'est la même chose. Encore et encore, elle ne comprend pas comment ça se fait qu'il est aussi sale que ça et puis qu'elle n'est toujours pas appris. Et un jour, elle regarde de nouveau, comme toute bonne femme qui est à la maison, dans un petit village qui n'a pas grand-chose d'autre à faire, elle regarde de nouveau dehors. Et tout d'un coup, elle appelle son mari, elle lui dit, mais viens regarder, c'est bizarre, le linge il est propre, mais regarde comme il brille, mais c'est incroyable. Je me demande ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a changé de produit de nettoyage pour laver le linge, la lessive, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, qui est-ce qui lui a dit, qui est-ce qui lui a montré comment laver son linge. Je me pose beaucoup de questions, j'aimerais bien savoir qui c'est qui peut faire ça. Voilà, fin du début de la première histoire. J'invite sans plus tarder Fritz à venir nous faire la lecture d'Exode 21 à 6.
Voilà, bonjour chers amis. Alors, Exode 20, de 1 à 6. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'aurais pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas des sculptures sacrées ni des présentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et sur l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les servira pas, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je punirai les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à la millième génération, afin que ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Voilà.
Merci beaucoup, Fritz. Vous l'avez très certainement reconnu, c'est le texte qui englobe les 10 commandements, les 10 paroles que l'Éternel a données à Moïse. Le Seigneur révèle ici des choses essentielles et primordiales à son sujet. La première chose, c'est qu'il est le seul, l'unique et l'indivisible Dieu. Et la seconde chose, c'est qu'il est un Dieu jaloux. Voici comment le dictionnaire, le Larousse, définit la jalousie. C'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Pour le dire autrement, la jalousie est un attachement vif et inquiet pour ce qui nous tient à cœur. Ce terme a un sens bien évidemment négatif et péjoratif dans notre langage et notre compréhension. Elle indique une frustration pour quelque chose qui ne nous appartient pas, ou encore une peur maladive de perdre quelqu'un, un être aimé. Cela peut même devenir une jalousie pathologique. Dans l'extrême des cas. En tant que chrétiens, nous savons fort bien que la jalousie est un péché. Si nous allons jusqu'au bout de notre raisonnement inconscient, le fait d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits avec ce que Dieu nous a donné. Il est intéressant de noter que la jalousie est autant attribuée à Dieu qu'aux êtres humains. J'ai intitulé ce message « La jalousie, une vertu ou un vice ?» La réponse dépend de la personne qui éprouve ce sentiment. Dans Exode 25, Dieu déclare qu'il est un Dieu jaloux. Mais Galates 5, 20 cite la jalousie parmi les mauvais fruits de la chair. L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ces deux versets sont-ils en contradiction? Dieu ne peut ni pécher ni être tenté par le mal. 1 Jean 3:5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Jacques 1:13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. La jalousie mentionnée dans Exode 20 se réfère à une qualité de la droiture et non du péché. Dieu dit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Le terme « jaloux » est un des attributs de Dieu. C'est l'un de ses noms, une description de son caractère. Pour ma part, quand je pense à Dieu, j'imagine plutôt Elohim, le fort, le divin, Adonai, le Seigneur, au sein d'une relation maître-serviteur, El Elyon, le Très-Haut, le plus fort, El Roy, celui qui est fort, celui qui voit, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, El Olam, Dieu éternel, ou bien encore Yahweh, je suis le Dieu éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, l'auteur de toute vie. Il est omniprésent, il est omniscient, il connaît toutes choses. Il est immuable, incomparable, insondable, insaisissable, merveilleux, fidèle et digne de confiance. Il est parfaitement juste et parfaitement équitable. Il est infiniment bon et en plus, il nous aime d'un amour inconditionnel. Voici quelques des attributs de Dieu qui me viennent à l'esprit. Mais jaloux, cet attribut n'en faisait jusqu'à la préparation de cette prédication pas partie. Grave erreur. Car ce descriptif s'applique fort bien à la nature même, à l'essence de Dieu. Dieu nous aime d'un amour extravagant. C'est un amour déraisonnable, un amour fou. Il nous veut pour lui seul. Il désire avoir l'exclusivité. C'est un amour exclusif. Il ne veut nous partager avec personne. Il nous veut tout entier, comme on l'a chanté ce matin, exclusivement pour lui. Il veut tout notre amour et tout notre cœur, pas juste une partie, pas juste le dimanche, pas juste quand on en a besoin, pas juste quand on est malade, mais il le veut tout le temps, tous les jours. Il veut la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de tout ce qui prend la première place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que ce soit une activité. Pour certains, ça peut être le fitness, ça peut être autre chose, une position, une chose ou une personne. Toute chose ou toute personne qui prend la première place dans nos cœurs, dans nos vies. La place de Dieu est une idole. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos petits-enfants, nos conjoints ou autre chose, si cela vient avant Dieu, c'est une idole. Vous vous souvenez très certainement en 2017, lorsque Johnny Hallyday est décédé, c'était vraiment l'icône, une icône de la chanson française. C'était tellement triste. En tout cas, moi, j'étais attristée dans mon cœur quand on voyait toute cette foule, tous ces fans qui étaient là et qui idolâtraient Johnny et tous ces gens qui pleuraient parce qu'ils avaient perdu leur idole. Ils avaient perdu leur Dieu. Du point de vue biblique, le sacrifice d'Isaac en est un parfait exemple. Isaac, le fils de la promesse, celui que Dieu avait donné. Quelle place avait-il dans le cœur d'Abraham? On n'en sait rien, le texte n'en parle pas. Mais Abraham a décidé d'obéir à Dieu et de le donner en sacrifice. De mettre Dieu à la première place, même s'il ne comprenait pas. De lui faire confiance, si ce n'était pas déjà le cas. L'idolâtrie et la rupture de l'alliance que Dieu a effectuée avec chacun d'entre nous. C'est dire à Dieu, tu ne me suffis pas, tu n'es pas suffisant. J'ai besoin d'autre chose pour me remplir. J'ai besoin d'autre chose pour me faire vivre. La jalousie humaine révèle ce qui est dans le cœur de l'homme. L'homme veut être au centre, pense à son propre intérêt. Quant à la jalousie du Tout-Puissant, c'est bien différent. Dieu doit impérativement être au centre, puisqu'il est Dieu. Pour être tout à fait transparente avec vous, ce message m'a vraiment beaucoup travaillé. J'en ai discuté avec une amie au téléphone, parce que ça me faisait penser à ce qu'elle me racontait. Elle aussi, elle était touchée. Elle réalisait, ses priorités sont à la mauvaise place. Tout d'un coup, au lieu que le centre soit Dieu dans sa vie, elle est devenue le centre. Au lieu que les choses qui ne vont pas, que ce soit vraiment Dieu qui fasse les choses, elle s'est mise. Et tout d'un coup, elle a réalisé, mes priorités ne sont pas bonnes. C'est une personne qui s'occupe d'une galerie. Elle affiche, elle fait un merveilleux travail et tout d'un coup, les proportions ont pris d'autres. Et tout d'un coup, elle réalise, au début, ma vocation, c'était de servir les artistes. Et tout d'un coup, elle voulait être servie, elle, et plus faire le mandat que Dieu lui avait donné. Mais heureusement qu'on a ce genre de choses. Heureusement que Dieu m'a reprise. Heureusement que Dieu m'a montré, m'a parlé. Parce que Dieu, ça montre que Dieu me transforme, il me change, et c'est bien. Et heureusement, parce que nous sommes appelés à grandir continuellement en Christ, si nous ne grandissons pas en Christ, il y a un problème. Si nous restons semaine après semaine à la même place, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans notre vie. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je réalise que si je tourne sur des choses, si je n'avance pas, c'est que mes priorités sont à la mauvaise place. On est appelé à toujours plus grandir en Jésus-Christ. Dieu est un Dieu infiniment bon, il est merveilleux, merveilleux à l'extrême. Il n'est pas jaloux pour lui-même. Il n'y a aucune once d'égoïsme en lui. Il n'a aucun besoin de notre amour. Non, il se suffit à lui-même, au sein de la Trinité, du fait qu'ils sont trois. Il n'a absolument pas besoin de notre amour. Penser que Dieu a besoin de mon amour ou de ma personne pour faire telle et telle chose, c'est nous élever au niveau de Dieu. Non, mais Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Et nous sommes ses créatures, pas plus, pas moins. Cependant, Dieu désire ardemment que nous cherchions son amour. En tant qu'être humain, nous avons impérativement besoin de son amour. Il y a dans notre cœur une place que seul Dieu peut remplir. Et les personnes qui ne connaissent pas Dieu cherchent toute leur vie quelque chose sans pouvoir le trouver. Parce que c'est une place que Dieu seul peut remplir. Il est un Dieu jaloux. Il est jaloux, car il sait ce qu'il est bon, ce qui est vital pour chacun d'entre nous. Notre bonheur dépend pleinement et uniquement de la place que nous donnons à Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Ceci est essentiel. Notre bonheur, bien évidemment, on a tous des choses qui ne vont pas, on a tous des choses qu'on aimerait, on a tous... des soucis ou voilà. Mais en même temps, si Dieu a la première place, si Dieu a la place qui lui est due, si vraiment nous sommes focalisés sur lui, nous serons heureux. Heureux ceux qui le mettent à la première place. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Jérémie 17,7 Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Dieu seul mérite d'avoir la première place dans nos vies et dans nos cœurs, personne d'autre. 1 Roi 18,21 dit « Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Jusqu'à quand, Daniela, auras-tu un comportement boiteux? Jusqu'à quand, Église de Reconvilier, aurons-nous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Dieu désire l'entièreté de notre cœur, pas juste une partie. Deutéronome 6,5 dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dieu désire un amour absolu. Juste avant de donner les 10 commandements, voici ce que l'Éternel dit. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Exode 19, 5 à 6. En donnant les 10 commandements, Dieu utilise à 5 reprises la même expression, l'Éternel, ton Dieu. Le nom éternel de l'hébreu Yahweh signifie celui qui est éternel, immuable, celui qui était, qui est et qui vient. Dieu répète son nom, l'Éternel, ton Dieu, car c'est ainsi qu'il affermit, qu'il renforce sa relation d'intimité, l'attachement, l'alliance et la fidélité avec son peuple, tout comme avec nous aujourd'hui. N'oublie pas, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne m'oublie pas et donne-moi la place qui me revient. Je suis celui qui suis. La jalousie divine révèle avant tout l'immensité de son amour pour chacun d'entre nous. Il est jaloux d'amour. La grande majorité d'entre nous avons de la difficulté à saisir, à croire et à accepter son amour absolu et sans limite. Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Dieu te connaissait avant de t'avoir créé. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas merveilleux? Il nous connaissait avant que nous venions à l'existence. Voilà, ici, au petit point, on peut mettre notre nom. Je vais prendre par hasard Daisy. Daisy, il t'a créé, il te connaissait avant que tu viennes à l'existence. La jalousie de Dieu décrit avec splendeur la grandeur et la magnificence de notre grand Dieu. Il est le seul véritable Dieu. Il est le seul créateur, il est le seul qui a le pouvoir de nous sauver. Il est le seul qui nous aime d'un amour si parfait et si inconditionnel. Il est le seul qui sait ce qui est réellement bon pour nous. Dans son immense miséricorde, sa bonté divine, sa bienveillance, il nous parle, nous conduit dans ses voies. Avec zèle et amour. Dieu nous aime d'un amour infini. Si quelqu'un venait à nous toucher, à nous faire du mal, c'est comme si cette personne touchait la prunelle des yeux de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il t'aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ en sacrifice pour toi. Il veut nous donner le meilleur avenir possible. Rempli de bénédictions. C'est en vertu. Oups là. Non, je crois que je vais trop loin. Désolée. C'est en vertu de sa jalousie que le Seigneur, Dieu, bénit et punit. Il punit ceux qui le déteste. Il bénit ceux qu'il aime. Ça aussi, c'est une magnifique promesse. Lui seul possède le droit absolu et l'exclusivité d'être adoré. Je pense que nous pouvons ici aisément faire un lien avec l'union du mariage. La jalousie de Dieu demande l'exclusivité dans la relation, de même dans le mariage. Je pense que les époux peuvent avoir une sainte jalousie et demander également cette exclusivité. Néanmoins, les priorités sont claires. D'abord et en tout premier, Dieu. Ensuite, le mariage et la famille. Et après seulement, vient le ministère, le service de Dieu, le travail, les amis et tout le reste. Mais l'ordre est clair. D'abord Dieu, ensuite le conjoint, la famille et après le service et tout le reste. Il y a combien de pasteurs, maintenant on voit ça beaucoup moins, mais à l'époque, il y a combien de pasteurs qui avaient des enfants et les enfants ne suivaient pas Dieu parce qu'ils n'avaient aucun exemple et que le pasteur s'occupait tellement de leur église, ils étaient tellement focalisés sur le ministère qu'ils délaissaient leur famille à la maison. Et les enfants n'étaient pas à Dieu. Et c'est des gens qui aujourd'hui disent « Oh, tout, mais pas l'Église, surtout pas, jamais. » Parce que les priorités n'étaient pas à la bonne place, pas à la place que Dieu voulait. Lorsque nous nous détournons de Dieu et mettons quelque chose ou quelqu'un à sa place, Dieu Tout-Puissant s'enflamme de jalousie. Je reviens à mon histoire. Où j'ai un petit peu loupé la chose ce matin à cause des lunettes, mais c'est pas grave, c'est pas ta faute, c'est voilà. C'est que alors cette histoire à Sornetan où tout d'un coup ce couple regarde par la fenêtre un matin et elle se dit ben on va regarder ce linge et tout d'un coup elle voit le linge d'une brillance mais exceptionnelle. Elle arrive même à sentir l'odeur du linge à travers la fenêtre, tellement il est propre, tellement il est beau. Puis elle se dit mais Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Et elle appelle son mari pour lui dire, viens voir, c'est pas possible. Qui est-ce qui lui a appris à laver linge? Maintenant, elle sait comment le faire. Et son mari arrive, lui prend la main et lui dit, chérie, avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, ce matin, je me suis levée tôt et j'ai lavé les fenêtres. Et il en est ainsi de nos vies. Ce que nous voyons en regardant les autres dépend de la clarté de la fenêtre à travers laquelle on regarde. Notre vision, arrête de rire, notre vision sur la vie dépend en partie, mais seulement en partie, parce que la vision qu'on a du monde, la vision qu'on a de nous, des autres, dépend de notre enfance, dépend de ce qu'on a vécu, dépend de plein de choses, de plein de paramètres, mais surtout de l'environnement dans lequel on a grandi, effectivement, clairement. Mais ça, Dieu peut restaurer, Dieu peut guérir. Mais en même temps, en partie, ça dépend de la vision qu'on a de Dieu et des priorités qu'on met. Si Dieu est en premier, nous voyons avec les yeux de la foi. Nous voyons avec les yeux de l'amour. Nous voyons avec les yeux de l'esprit. Si Dieu n'a pas la première place, notre vision est assombrie par la jalousie, par la colère, par la négativité et par les désirs insatisfaits. Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Dieu ne partage ni sa gloire, ni sa louange. La jalousie de Dieu révèle son caractère moral. Pour nous chrétiens, c'est un sujet de joie, de confiance et de louange et d'adoration de se voir que notre Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il veut qu'on ait cette intimité avec lui. Il nous veut pour lui seul. C'est juste magnifique. Le créateur de l'univers veut, Nicole, pour lui seul. Il ne veut pas que tu sois maintenant au ciel, mais il veut tout de toi maintenant, ici-bas. C'est juste merveilleux. Peut-être que quelqu'un se dit, ouais, c'est magnifique, c'est un beau programme, mais comment mettre cela en pratique? Dieu nous prouve par son amour chaque fois qu'il nous invite dans sa présence. Passons du temps dans sa présence, lisons la parole de Dieu. C'est clair, des fois c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qui viennent dans notre quotidien, dans nos journées. Mais mettons cette priorité sur Dieu. Il nous invite dans l'intimité de nos chambres pour nous parler et nous dévoiler des secrets. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu céleste et ton Père, le lieu secret, pardon. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Si nous donnons la priorité à Dieu, si nous le cherchons de tout cœur, nos vies seront transformées. C'est là que nous sommes et serons utiles à l'avancement de son règne, de son royaume ici-bas. Quand on pense, quand j'ai fait mon bachelor avec Jeunesse en Mission, j'ai fait une école pour prêcher enseigner, donc je suis partie en Afrique du Sud pour prêcher enseigner, et je me suis retrouvée dans un hôpital, et puis avec des gens qui étaient en train de mourir, et j'avais pris une bande pour se mettre sous le bras ou un endroit où on a mal, et dessus j'avais marqué justement le temps présent et le temps à venir, et le temps présent qu'on est ici sur Terre avec les magnifiques choses et les galères qu'on a aussi, effectivement, c'est tellement restreint, c'est tellement un temps qui est petit en comparaison de l'éternité, de ce qu'on va vivre éternellement avec Dieu. Et c'est l'opportunité de pouvoir le servir, de pouvoir lui donner toute notre gloire, toute notre reconnaissance, et de pouvoir aussi regarder et puis entrer dans quelque chose de différent qui nous permettra par la suite d'avoir une bonne place au paradis. Repentons-nous et revenons à lui. En tout cas, en ce qui me concerne, ce message m'a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai dû me repentir parce qu'il y a des choses qui ne jouaient pas. Et si vous voyez des choses qui ne jouent pas, venez me le dire. En toute humilité, pas de venir me taper dessus parce que je pense que voilà, j'ai de la chair comme tout le monde, et puis je ne pense pas que je le prendrai bien, mais si vous me le dites avec beaucoup d'amour, je pense que je pourrais l'accepter, parce que ce que je veux, c'est vraiment ressembler toujours plus à Christ. Et on a des travers, on a tous des travers, et tout d'un coup, on rentre de nouveau dedans. Donc c'est bien de pouvoir se dire les choses pour pouvoir avancer, grandir, pour que nous puissions être cette église qui resplendit de la manifeste présence de Dieu. Et que des gens qui ne le connaissent pas viennent à lui avant que ce soit trop tard. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Cantique des Cantiques, 8-6. Revenons à notre premier amour, comme nous le voyons quand on lit l'Apocalypse où il parle aux églises. Cherchons-le, pensons à lui durant nos journées, pensons à lui durant nos nuits, quand on est réveillé. Essayons de toujours plus le mettre à la première place. Je ne sais pas si je pense que je vous avais déjà parlé une fois du frère Brother Lawrence. C'était un moine et puis... je m'excuse si vous vous rappelez de l'histoire, mais c'est un moine qui recherchait la présence de Dieu. Pendant mon école de disciples, quelqu'un m'avait donné ce petit livre qui m'accompagne depuis, et je trouvais tellement magnifique ce moine qui recherchait la présence de Dieu et qui se disait, mais moi je veux rentrer, je veux plus de Dieu, je veux plus, il y a tellement plus de Dieu. Et un jour, ce qu'il a fait, c'est qu'il était tellement dans cette présence, dans cette recherche de Dieu, et il faisait un programme, qui c'est qu'allait faire la vaisselle, et chaque fois que quelqu'un devait faire la vaisselle, lui, il levait la main, et puis il allait faire la vaisselle. Parce qu'il aimait tellement, il faisait la vaisselle avec Jésus. Il était en communion constante avec Dieu. Donc en faisant son activité, ben, il communiquait avec Dieu, il était avec Dieu. Et je trouve ça tellement magnifique. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Parce que ça sera en accordance avec ce que lui veut. Je finis par la prière. Ah Seigneur Dieu, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu qui nous aime à l'extrême. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour envers chacun d'entre nous. Je décide, nous décidons aujourd'hui ensemble de te donner la première place dans nos vies. Nous voulons, nous désirons que notre relation avec toi grandisse, que tu deviennes notre priorité ultime. Par ta miséricorde et ton amour, aide-nous à tenir notre engagement. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi parce que nous partons tellement vite dans autre chose. Seigneur, nous voulons plus de toi. Il y a toujours tellement plus de toi. Nous voulons plus de toi dans nos vies, plus de toi, que tu puisses resplendir, que tu puisses vivre au travers de nous, que nous puissions être ces canaux que tu utilises pour l'avancement de ton royaume. Viens régner dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Reprends la place qui est la tienne, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Amen. Et maintenant, je vous propose un chant. Ça serait un temps de méditation ou un temps d'appropriation du message. Donc vous faites comme vous voulez. C'est un chant que je pense nombreux d'entre vous connaissez. Donc vous pouvez soit vous lever, chanter, vous agenouiller, rester assis ou juste réfléchir. Heureusement, Béatrice ne l'a pas cassé.
Viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, t'unir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom. Chercher